CFM en Tarn-et-Garonne, le MAG.
Bonjour et merci d'être là avec nous dans ce MAG du Tarn-et-Garonne. Aujourd'hui, nous aurons le deuxième portrait du vivant d'une série audio et vidéo réalisée dans le cadre de la résidence de territoire Tapissons-nous, initiée par les pépites que sont les trois structures au Babeltut, le tracteur savant et le bazar textile de Saint-Antonin-Nobleval. Avec cette résidence, on accueille sur le territoire de la communauté de communes Quercy-Rouergorge de l'Aveyron, Marine Giacomi. Elle est artiste illustratrice et elle nous dessine les portraits d'un représentant du monde minéral, végétal ou animal qui parle en leur nom. L'épisode 2, ce sera avec Michel qui parlera en le nom d'un homme dont on vous laisse la surprise. Ce sera dans la dernière partie de ce MAG. Avant ça, on vous parlera moxibustion japonaise et itinérance à pied pour aller soigner les femmes atteintes d'endométriose. Mais pour le moment, on est mercredi. Et comme d'habitude, comme tous les mercredis, c'est la nature en question avec aujourd'hui une question de Noam. Pourquoi les guêpes tuent-elles les abeilles ?
Pourquoi les feuilles tombent en automne ?
Moi je dis que c'est peut-être que c'est pour parce qu'il.
Non. Pourquoi les mouches peuvent marcher au plafond ?
Parce qu'ils ont des.
Pourquoi les chauves-souris dorment la tête en bas ? Pourquoi les zèbres ont-ils des rayures ?
Mais en fait c'est pour. Je crois que c'est pour s'adapter. Je sais pas.
Bonjour, je m'appelle Noam, j'ai 6 ans. Je voudrais savoir pourquoi les guêpes tuent les abeilles.
Parce qu'elles sont jalouses. Elles sont plus douces qu'elles, elles font du miel et elles font du miel qui est très aigre. C'est du vinaigre.
Je sais pas que les guêpes tuent les abeilles.
Peut-être parce qu'elles sont plus fortes, donc elles sont en capacité de les tuer et de rester toutes seules. Ou elles sont jalouses de leur miel, peut-être.
Je sais pas, peut-être parce que c'est les reines.
Je sais pas.
Ah bah là là, je peux pas vous dire. J'en sais rien du tout.
Bonjour, je suis Sophie Rambaud, animatrice au CPIE Quercy-Garonne à Caylus, et je vais répondre à ta question. Les guêpes tuent-elles des abeilles ? Les guêpes communes nourrissent leurs larves de chenilles, de papillons, de mouches qu'elles capturent. Au passage, cela régule les populations d'insectes. La guêpe commune adulte se nourrit de nectar et de pollen et participe aussi à la pollinisation. Il arrive que des guêpes communes entrent dans des ruches faibles ou petites pour piller le miel. Cela n'arrive pas dans les ruches où les colonies d'abeilles sont suffisamment fortes pour repousser les guêpes. Une petite guêpe solitaire, s'appelant la filante apivore, s'attaque directement aux abeilles. Je vais vous expliquer comment. Attention, âme sensible, éloignez-vous du poste. La filante est postée sur une fleur et surveille l'abeille en train de butiner. Quand soudainement, elle lui saute dessus, la fait tomber au sol et lui plante son aiguillon dans l'abdomen en lui déversant du venin. L'abeille se retrouve paralysée par le venin. La filante enserre l'abeille entre ses pattes et prend son envol en portant l'abeille comme un paquet. La filante se dirige jusqu'à son nid qui se trouve sous terre, dans lequel elle a fabriqué des chambres pour y loger ses petits. Elle va déposer dans chaque chambre 2 à 3 abeilles pour chaque larve qui en raffole. Les abeilles paralysées ne peuvent se défendre.
Merci et à la semaine prochaine pour une autre question.
CFM en Tarn-et-Garonne. Le MAG.
Itinérance à pied pour les femmes atteintes d'endométriose. Depuis 7 fonds, un voyage qui se prépare, qui aura lieu dans un mois, organisé par Gaëtan Wilfried. Bonjour Gaëtan.
Bonjour Lisa.
Vous êtes moxibuster.
C'est bien ça.
Une pratique donc justement qui permet de soulager les femmes atteintes d'endométriose et vous organisez ce voyage pour leur prodiguer ces soins, pour parler avec les aidants aussi, échanger avec divers praticiens qui pratiquent autant la moxibustion japonaise que qui traitent l'endométriose. Alors un projet à double facette. Et puis en plus là, vous partez de cette fonds à pied à travers 2 régions, donc l'Occitanie et la Nouvelle-Aquitaine, rien que ça.
C'est bien ça.
Un voyage de combien de temps d'abord ?
Alors un voyage de 6 mois.
Et est-ce qu'on peut parler peut-être de la moxibustion japonaise et de l'effet qu'elle apporte à l'endométriose ?
Aux femmes atteintes d'endométriose, oui, ouais, tout à fait. Dans la moxibustion japonaise, pour préciser ce dont il s'agit d'une thérapie qui consiste à chauffer en fait, des points d'acupuncture à l'aide d'une plante qui s'appelle l'armoise, donc que je façonne en fait, moi-même, donc je façonne des cônes au fur et à mesure de ma pratique, et j'applique ça donc, au niveau de points d'acupuncture pour venir débloquer des stagnations d'énergie, et qui a un effet aussi au niveau des tissus. donc au niveau des fascias, ce qui va permettre de détendre en fait ces tissus-là, de détendre les fascias. Et dans le cas de l'endométriose en particulier, donc c'est particulièrement intéressant quand on travaille autour de là où se trouve ce qu'on appelle des lésions endométriosiques. Donc c'est-à-dire c'est un développement de tissu apparenté à celui de l'endomètre et qui réagit de la même manière au moment du cycle. C'est-à-dire que ce tissu va se mettre à saigner. C'est ça qui fait les règles au niveau de l'utérus. L'endomètre se met à saigner, donc ça qui fait le sang qui s'écoule. Et là, en fait, il se produit à peu près la même chose, sauf que c'est pas dans l'utérus, c'est ailleurs dans le corps. Et il va y avoir du coup un état inflammatoire localisé qui va générer localement en fait ce qu'on appelle les adhérences, donc des tissus qui se crispent en fait très fortement avec des tensions. Et l'amoxibustion, en travaillant sur ces adhérences ou en tout cas autour, va permettre de libérer ces tensions en fait, et de libérer également et d'atténuer les douleurs qui sont associées à ce type de lésion et à ce type de conséquences en fait aussi, adhérences, kystes et contractions musculaires et états inflammatoires localisés. Donc ça va permettre de soulager énormément de douleurs et de symptômes liés à l'endométriose, comme des sciatiques, des douleurs de cruralgie, des douleurs dans le bas-ventre, des problèmes de cystite, d'infection urinaire, de poliurie, donc c'est une miction très fréquente, des douleurs en allant à la selle, etc. Voilà, pour faire un tableau.
Vous avez eu le temps de pratiquer depuis 2 ans que vous êtes vraiment penché sur, surtout hein, sur l'endométriose. Alors, pourquoi? Comment?
Pourquoi l'endométriose et pourquoi? Donc, l'endométriose, en fait, c'est à l'occasion d'une rencontre entre le Centre Ressources, qui est une association dans laquelle je suis bénévole, qui accompagne des personnes atteintes de cancer, que j'ai rencontré l'association EndoFrance. Donc ces deux associations se sont réunies pour une soirée, en fait. Et j'ai découvert à cette occasion la maladie qui était l'endométriose. À ce moment-là, moi, je revenais d'un Tour de France à vélo, donc je n'avais pas encore repris complètement mon activité. Et là, j'ai constaté qu'il y avait un besoin pour les femmes atteintes d'endométriose de trouver des solutions en fait pour les soulager, et je me suis dit tiens, pourquoi pas tester la moxibustion japonaise sur les symptômes et les douleurs de cette maladie. Donc j'ai lancé une étude en fait qui a duré un an, de partir de début d'été 2019 jusqu'à été 2020. Et durant cette année-là, en fait, j'ai expérimenté la moxibustion japonaise, donc qui a montré qu'avec en général à peu près 3 séances, on arrivait déjà dans 80% des cas à soulager très 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 bien déjà les douleurs et les symptômes qui sont associés. Donc là, je me suis dit je me spécialise maintenant un peu plus dans l'accompagnement de l'endométriose, et donc voilà pourquoi en fait aujourd'hui je propose ce projet-là en fait d'itinérance pour faire connaître plus largement. Et comme tu le disais au début, en fait l'idée c'est d'aller à la rencontre des femmes atteintes d'endométriose sur tout ce parcours hein, donc qui va passer par cette fond, Gaillac, Toulouse, Bordeaux, Angoulême, Saintes, Limoges, Brive, donc qui traversent deux grandes régions du sud-ouest, pour rencontrer les femmes afin de les soulager directement chez elles, leur transmettre aussi des pratiques et des techniques et des connaissances afin qu'elles puissent bien, dans leur quotidien, amener du soulagement pour leurs douleurs. Et l'objectif, c'est aussi bien de rencontrer les aidants, donc les compagnons, la famille, les amis qui gravitent autour de ces femmes en fait, et qui peuvent participer aussi à les soulager. Donc je souhaite aussi recueillir leurs témoignages, donc témoignages des femmes atteintes, mais des aidants également. Et mon souhait sur tout ce parcours, c'est aussi de rencontrer des professionnels de santé, donc qui sont soit spécialisés dans l'endométriose, ou en tout cas qui ont dans leur patientèle des femmes qui en souffrent et qui souhaiteraient les aider, et auquel cas, moi je me propose de transmettre les connaissances que j'ai actuellement et qui pourront aider ces patientes en fait. Voilà.
D'où ce tour à pied avec votre sac à dos.
Exactement.
Et les petites icônes de Moxa bien à l'abri, on le souhaite en tout cas.
C'est ça, tout à fait.
On doit vous contacter, du coup, pour faire dévier votre itinéraire jusqu'à devant chez nous.
Oui, exactement. Donc en fait, on peut aller sur mon site. Donc mon site, c'est www.moxibustion-santé.fr. Donc moxibustion s'écrit M-O-X-I-B-U-S-T-I-O-N. Sur le site, en fait, on peut, à la page contact, du coup, on peut m'envoyer directement un mail. Et sur la page d'accueil, il y a également des témoignages, du coup, si les personnes veulent savoir un peu ce qu'en pensent les patientes que j'ai suivies. Il y a également le projet, le dossier du projet, si les gens veulent savoir un peu plus mon parcours, pourquoi tout ce projet, et s'ils veulent suivre également l'avancée du parcours, toutes les nouvelles, dans ce projet, il y a possibilité de s'inscrire également à newsletters. Donc voilà, il y a toutes ces infos sur mon site.
Vous vous adressez au grand public ou aux professionnels?
Alors, je m'adresse aux femmes atteintes d'endométriose en priorité. Sur mon site, c'est surtout en effet pour les femmes atteintes d'endométriose. Ensuite, c'est vrai que ma volonté, c'est pas uniquement de servir que les femmes atteintes d'endométriose, mais aussi que mes connaissances et les formations, notamment que je suis en train de créer en ligne, eh bien, puissent servir également à tout un chacun. Hein, donc, des personnes qui souffrent d'autres pathologies ou d'autres troubles de santé vont pouvoir tirer profit de formations en ligne voilà, où je vais transmettre des connaissances sur l'alimentation, sur le repos, sur le mouvement, l'importance de détoxifier le corps également. Donc, en tout cas, mon site, pour te répondre en fait à cette question, Lisa, c'est surtout à destination des personnes qui souffrent de pathologies, d'endométriose en particulier, mais aussi d'autres pathologies. Et pour les professionnels, c'est plus un contact direct avec eux qui va me permettre en effet de leur transmettre mes connaissances de manière plus poussée, plus précise, plus technique en fait. Voilà, donc le site n'est pas trop technique, en tout cas je l'espère.
On parle diplôme et formation, et la vôtre en moxibustion japonaise, comment?
Alors pour la formation, donc mon parcours de formation, il démarre en 2012-2013, donc là j'ai fait un parcours en médecine chinoise, donc qui m'a donné une base donc, pour commencer à pratiquer hein, concrètement. Après ça je me suis formé en traitement postural, donc pour détendre les tensions musculaires et rétablir les déséquilibres posturaux. Et la moxibustion japonaise, c'est venu un peu plus tard, donc à partir de 2016, où je suis allé me former à Barcelone, dans la première école de moxibustion japonaise en Europe, dirigée par Felipe Codepiñana, donc qui est un Espagnol, donc du coup qui enseigne la moxibustion japonaise désormais en Europe, et qui la diffuse largement. Donc c'était une formation qui a duré 7 mois, donc c'est pas en continu, hein, c'est des week-ends de formation le plus souvent. Et donc une formation qui totalise à peu près 90 heures de formation théorique et pratique.
Et c'est sur le terrain qu'on en apprend le plus, hein, comme le montrent un peu vos témoignages qui ont été recueillis, qu'on peut trouver sur votre site www.moxibustion-santé.fr. Plus vous pratiquez, plus on en apprend.
Tout à fait, tout à fait. Les thérapies en général, c'est pas propre à la moxibustion, mais à toutes les thérapies corporelles, c'est vraiment le... La théorie, finalement, c'est très facile à apprendre. Par contre, la pratique et la technicité, c'est ce qui caractérise un peu le plus la moxibustion japonaise, c'est l'écoute du corps. Donc, écouter ce qu'on appelle la voix du corps en moxibustion japonaise. Donc, c'est notre main, notre toucher, qui va, en fait, en passant au niveau du corps, déterminer s'il y a des zones qui sont froides, qui sont chaudes, qui sont tendues, qui sont crispées. Et en écoutant, en fait, tout ça, on va pouvoir utiliser les techniques de moxibustion et bien pour rééquilibrer tout ça. C'est-à-dire débloquer des zones qui sont tendues, supplémenter, apporter de l'énergie sur des zones qui sont plutôt molles, froides, où il y a un manque de tonicité, hein, par exemple. Et donc, on utilise les techniques, finalement, de manière adaptée à ce qu'on ressent. Et ce qui fait qu'un thérapeute est un bon thérapeute, finalement, c'est la quantité de patients qu'il a palpé. Hein, grosso modo, au niveau du toucher, plus on va toucher de gens, plus on va affiner notre pratique et devenir pointu et compétent. Ouais.
D'où cette itinérance à pied pour les femmes atteintes d'endométriose, puisqu'elles ne viennent pas jusqu'à vous. À cette fond, vous allez directement sur place, donc à travers ces deux régions, l'Occitanie et la Nouvelle-Aquitaine. Je ne citerai pas le nombre de départements que vous allez traverser. Ça fait combien de kilomètres à peu près?
Ça fait à peu près entre 2000 et 2500 kilomètres à pied.
Voilà, en 6 mois donc.
En 6 mois, tout à fait.
Pareil, je remercie les Moxa d'être dans votre sac à dos. Ils vont certainement vous être utiles à vous aussi tout au long du trajet.
Oui, tout à fait, tout à fait.
On peut vous contacter donc pour faire dévier votre route jusqu'à nous sur www.moxibustion-santé.fr. Vous êtes à Sept-Fonds, Gaëtan Wilfried.
Oui.
On peut aussi aller directement toquer chez vous peut-être.
Oui, tout à fait. Enfin, l'idéal, c'est qu'ils aillent sur le site, en fait, qu'ils prennent un rendez-vous téléphonique. Généralement, je fais des rendez-vous téléphoniques avant de recevoir les gens. Ça me permet un peu de mieux cibler voilà, ce dont ils ont besoin. Et après, ensuite, venir. En effet, donc, là, les séances deviennent de moins en moins fréquentes parce que je suis vraiment dans la préparation du projet, donc j'ai besoin de temps. Voilà, s'il y a des besoins, en effet, je répondrai quand même aux besoins.
Itinérance à pied pour les femmes atteintes d'endométriose. Départ dans un mois, tout pile, pour Gaëtan Wilfried. Merci beaucoup.
Merci Lisa.
Et la suite de ce mag, c'est maintenant, c'est un portrait du vivant.
CFM, en Tarn-et-Garonne, le mag.
Portrait du vivant réalisé dans le cadre de la résidence de territoire Tapissons-nous avec l'artiste illustratrice Marine Giacomi. Pendant que je pose mes questions à un représentant du monde minéral, végétal ou animal, Marine Giacomi dessine son portrait. Nos invités, passionnés de nature et du vivant, se mettent à la place de ce qui les anime et parlent en leur nom. Épisode 2 avec Michel. Michel Souli habite le village de Penne dans le Tarn. Il est l'ancien président de la société spéléo-archéologique de Caussade. De son travail, Michel a fait sa passion. Entre 1992 et 93, il mène la première étude de la grotte de Bruniquel aux côtés de François Rougeau. Dans ce portrait dessiné et radiophonique, Michel Soulier se fond à sa passion. Deuxième portrait du vivant aujourd'hui avec Michel. Bonjour, est-ce que vous comprenez ce que je dis ?
Ouais, un peu. Déjà, vous me demandez de parler des champignons. Ça ressemble à un champignon que je trouve dans les bois. Puis celui-là est jaune. Vous en avez un autre bleu, un autre vert. Moi, d'habitude, les champignons, je les cueille pour les manger. Quand je suis avec ma tribu, on cueille les champignons. Alors, je suis jeune, moi, encore. Et il y en a certains qui rendent malades, donc il faut faire attention. Le mien, il est jaune. Je ne sais pas, je demanderai à mes parents.
Alors, vous vous y connaissez en champignons, en botanique ? Est-ce que vous connaissez la culture ?
Oh, je connais beaucoup de choses, les champignons dans la nature. Parce que même si je suis jeune, mes parents m'ont appris à reconnaître ce qu'on pouvait cueillir, manger. Alors, celui-là, jaune, je ne sais pas, je leur demanderai. Mais je cueille des baies sauvages, je cueille tout ce qui se mange, en fait. Parce que c'est... ce que nous recherchons en premier. Il faut boire, il faut manger, sinon on n'arrive pas à survivre.
Alors plutôt cueilleur, hein, pas du tout chasseur, Michel.
Chasseur aussi, mais je suis encore un peu jeune et je fais attention. Moi, je suis seulement, dans ma tribu, je suis seulement un rabatteur pour l'instant. C'est-à-dire que je fais du bruit pour effrayer les animaux, les bisons. C'est ainsi, le froid arrive, les bisons se promènent dans la vallée. On va essayer de les pousser dans un endroit où on pourra les piéger. Et c'est les plus âgés, ceux qui sont plus forts, qui vont essayer après de les tuer avec leurs épieux.
Vous vivez donc en communauté, un système organisé avec des outils, des connaissances qui se transmettent de génération en génération. C'est une société organisée.
Alors les générations, je ne sais pas trop ce que c'est, parce que je connais mes parents, ils sont déjà un peu vieux. Ils ont une quarantaine d'hivers, à peu près. Moi, je suis un jeune, j'ai 15 hivers. Mais je suis déjà un jeune adulte. Donc je les accompagne à la chasse. Et bientôt, mon père m'a dit que je pourrais devenir un chasseur. Donc je vais fabriquer mon épieu. Je vais tailler la pierre que je vais fixer à l'extrémité. Et il m'apprend aussi à tailler les pierres. Et c'est difficile. Alors j'ai mes marteaux, je les ai dans ma sacoche. Alors j'ai plusieurs marteaux. Ça, c'est un bien très précieux, le marteau. Ce sont des galets que je trouve au bord de la rivière, ils sont plus ou moins gros. Et suivant, c'est lui qui me le dit, suivant comment je dois tailler mon caillou, je dois prendre un certain marteau, un certain outil, un certain galet. Le plus petit pour les finitions, le plus gros pour obtenir de grosses lames. Alors les lames, c'est pas facile. Surtout que, ici, dans notre région, on a beaucoup de galets qui sont blancs brillants, mais qui cassent assez mal. Et de temps en temps, j'arrive à trouver une pierre qui se taille mieux. Et avec celle-là, on arrive à faire des outils pour découper la viande ou des outils pour chasser qui sont très, très aiguisés, très aiguisés. Mais c'est difficile de les tailler.
En attendant, vous avez encore beaucoup, beaucoup de vie devant vous. J'allais dire toute la vie à 15 ans, mais encore une bonne partie de la vie.
15 ans, c'est quoi 15 ans ?
Pardon, 15 hivers.
Ah, les hivers, oui, parce que dans une autre tribu, ils parlent
de
un chaud. Il dit, on a 15 périodes chaudes. Nous, c'est plutôt l'hiver qui nous pose des problèmes.
Eh bien, justement, comment vous survivez à l'hiver ? Déjà, il y a moins à manger. J'ai cru comprendre que ça vient un régime assez fruitier.
Et l'hiver, on mange surtout de la viande. Surtout de la viande. C'est vrai que les fruits sont très rares.
Et vous dormez où ?
Ah, alors... notre tribu s'est installée cette année. On change très souvent, on se déplace. Et on connaît des sites sur lesquels on est habitué à s'installer. Et là, celui-là, il est très bien. Il est adossé contre une falaise, côté du soleil. Et quand le soleil sort, le soleil va chauffer la falaise et va nous tenir chaud. Et même la nuit, pendant un petit moment, la falaise reste chaude. Et ça, c'est très agréable. Et même, cet abri-là, il a un toit. Ça nous évite de recevoir l'eau de pluie. Et ça nous évite aussi de recevoir la neige. Et on peut fermer à l'avant, on peut mettre des peaux d'animaux, ce qu'on a chassé, on peut les accrocher, et là, on va se tenir dans un espace réduit. La nuit ça pose un problème, on est obligé d'entretenir du feu. Ça fait fuir les animaux, ça nous chauffe. Et il y a toujours quelqu'un qui reste debout et qui va veiller à la tribu, sur notre groupe, pour qu'on ne soit pas attaqué par un animal. Certains sont très méchants, avec des dents longues. Je les reconnais, je ne sais pas comment ils s'appellent encore, mais je sais, ils ont des dents très longues, ceux-là, il faut s'en méfier. On n'aime pas ces animaux. Il y en a d'autres qui sont, qu'on peut chasser sans trop de problèmes. Mais ceux-là, les animaux, la nuit, qui viennent renifler un petit peu, faire le tour de notre campement, ceux-là, on en a peur.
Est-ce qu'il y a du racisme à votre époque, dans votre entourage ? Est-ce que vous rencontrez des populations que vous n'avez jamais rencontrées ? Est-ce que vous essayez de transmettre des connaissances aux générations futures via des biais divers ? J'entends les parois, vous parliez du feu juste avant.
Le feu, nous, c'est mon père qui m'apprend tout. Et moi, j'apprendrai tout à mes enfants. Alors, d'autres tribus, on n'en rencontre pas souvent. J'en ai vu passer une... il n'y a pas longtemps. Elle passait, mais ils étaient bizarres. Mm-hmm. Ils n'étaient pas comme nous. On aurait dit qu'ils n'avaient pas beaucoup mangé. Ils étaient plus grands que nous, plus allongés.
Vous êtes très petit, très trapu, très poilu, Michel.
Poilu, ouais, peut-être, oui, je ne sais pas, mais on est normaux.
Ouais, oui, les autres sont plus grands.
On a une plure, pas comme nous, mais enfin, oui. Ouais, on n'est pas très grands. On est costaud quand même. Hein. Et les autres qui passaient, ils étaient tout en longueur. Ils avaient mal mangé, sûrement.
Est-ce que vous avez un endroit particulier ? Alors, on est avec vous, Michel, dans le Tarn-et-Garonne, un endroit emblématique.
Le Tarn-et-Garonne. Moi, je suis au bord d'une rivière. Au pied, il y a un grand rocher devant moi. Peut-être que plus tard, quelqu'un fera quelque chose sur le rocher. Mais toujours sur ma falaise sur laquelle on est adossé, là, j'ai vu entre des blocs, dans le noir... il y a un départ, il y a quelque chose. Ça continue plus loin. Alors j'aimerais bien y aller, même, il ne faut pas le dire, parce que mes parents ne nous écoutent pas, mais j'y suis allé. Et alors avec des copains, on est rentré dans le noir pendant que les parents étaient au bord de la rivière, en train de chercher des galets et de boire. Nous, avec les copains, on est rentré avec des torches dans la cavité. On avançait vite. Et on est arrivé à un endroit, c'était loin, c'était noir. Et un endroit, peut-être une autre tribu avait construit quelque chose. Il y avait des morceaux de glace, ça ressemblait à de la glace. Je ne sais pas si c'était de la glace, des morceaux de glace qui avaient été coupés et rangés. Ça faisait comme un campement, comme nous on fait dans notre porche à l'extérieur. Ça ressemblait à un campement. C'est curieux, très curieux. Or, qui avait fait ça ? Sûrement une autre tribu. Mais on est vite ressorti et on était arrivé juste au campement quand les parents rentraient. Ils ne nous ont pas vus. Mais il ne faut pas le dire, ne le dites pas. Hein.
C'est quand même intéressant cette histoire d'amas, de concrétion.
Oh, c'est quelque chose de très curieux. Moi, je n'ai pas compris parce que, en plus, il y a les chauves-souris qui nous ont fait peur.
Il n'y a pas des ours aussi, ou vous avez dû traverser de l'eau même?
Ah, les ours, on a marché un petit peu, mais on n'y voyait pas beaucoup. Ça faisait beaucoup de bruit. Il y avait les chaussures, c'était pas des chaussures, c'était des peaux, des peaux qu'on avait ficelées autour des pieds. Et là, ça collait un petit peu, et puis à un moment, oui, j'ai mis le pied dans l'eau.
Et pourquoi vous n'aviez pas le droit ? Pourquoi est-ce que vous êtes rentré en courant avant que vos parents arrivent ? Pourquoi vous n'avez pas le droit de rentrer dans cette...
Parce qu'ils nous auraient interdit, eux aussi, ils ont peur. Et puis peut-être que là, il y a... des dieux, des maléfices, tout ce qui est noir, ça fait peur à tout le monde. Nous, c'est parce qu'on aime bien ce qui est interdit par les parents. Je pense que c'est tous les jeunes qui pensent ça. Et donc, nous sommes rentrés sous terre parce qu'on est curieux. Et je pense qu'il y aura d'autres personnes très curieuses qui feront comme nous.
Michel, vous avez l'air d'avoir tout ce dont vous avez besoin à votre époque et là où vous êtes. Si on avait un cadeau à vous faire, quelque chose qui vous ferait extrêmement plaisir, ce serait quoi ?
Oh. De jolis bouts de bois, longs, souples et très résistants pour faire mes futures armes. Ça serait un joli cadeau.
Oui. Michel était un homme de Néandertal. Les capsules vidéo seront visibles lors de projections pour la restitution de la résidence de territoire Tapissons-nous, initiée par le tracteur savant, au Babel Tut et le bazar textile de Saint-Antonin-Nobleval. Plus de renseignements sur tapissonsnous.wordpress.com ou sur Facebook Tapissons-nous. Le mag, quant à lui, est à retrouver en podcast sur cfmradio.fr. Et voici les infos.